Radio Okapi.
Le journal. Jocelyne Moussao à la présentation.
Les services d'urgence suspendus à l'hôpital HJ de Limété et au centre médical Diamant après le refus de prise en charge ayant entraîné le décès d'une patiente. En réaction, l'hôpital HJ souligne que la patiente a été prise en charge et que l'établissement se conforme à l'autorité tout en attendant les conclusions de l'enquête menée par l'inspection générale de la santé. Au Nord Kivu, près de 14 000 habitants privés d'eau potable à Bouléoussa et dans plusieurs localités de Walikale depuis un mois. La société civile appelle les autorités et partenaires à soutenir les réparations du réseau endommagé par les combats. Kinshasa asphyxié par les embouteillages, l'expert Serge Ilunga Lukunga propose la décentralisation et des alternatives de transport. Il est notre invité. Bonsoir à tous. Les services des urgences suspendus dans deux grandes structures médicales de Kinshasa, les hôpitaux HJ de Limété et le centre médical Diamant dans la même commune. L'ordre est venu du ministre de la Santé, selon son secrétaire général. Il leur est reproché d'avoir refusé de prendre en charge une malade, Madame Divine Kumasamba, qui s'est présentée au service des urgences la nuit de dimanche à lundi, au motif qu'elle ne réunissait pas la caution exigée. C'est là, malgré la compte qu'elle détenait, une situation qui, selon la lettre du secrétaire général, a entraîné le décès de la patiente. La suspension, c'est en attendant les enquêtes menées par l'inspection générale de la santé. Docteur Sylvain Yuma estime que la décision n'est pas extrême puisqu'il y a eu mort d'homme. Il est joint par Babel Pongo Massimango.
Il fallait qu'on prenne cette décision parce que il y a eu dans la nuit du 7 au 8 une dame qui s'est présentée dans une situation d'urgence, d'abord HJ, pour n'avoir pas payé la caution et n'a pas été prise en charge. Alors dès là, elle est partie à Diamant, Limité toujours. Elle a vécu la même situation et elle décédera plus tard. Et ça, c'est des situations inacceptables. Et nous étions obligés, sur l'instruction du ministre, de prendre cette décision et envoyer les inspecteurs sur le terrain pour nous dire exactement ce qui s'est passé avant de prendre d'autres décisions à l'avenir. Il n'y a pas de décision extrême. Aussi longtemps qu'il y a eu mort d'homme, il n'y avait pas autre chose à faire que de poser cet acte-là. On va voir ce qu'on prendra comme décision après. Mais dans un premier temps, à titre de mesure conservatoire, il fallait procéder par la suspension du fonctionnement des deux services d'urgence.
L'autorité a pris une décision, nous nous plions à cela, même si la suspension de notre service des urgences nous pénalise puisqu'il s'agit aussi d'un service de triage des cas. C'est la réaction du médecin directeur de l'hôpital HJ, joint ce jeudi par Radio Okapi. Nous avons pris en charge la patiente aux urgences, nous avons stabilisé son état, nous pouvons le prouver. Au moment de le transférer en soins intensifs, il y a eu des problèmes avec son accompagnateur. Il a souhaité emmener la patiente dans un autre centre pour poursuivre les soins contre l'avis du médecin qui l'a prise en charge. Nous attendons les conclusions de l'enquête que mène l'inspection générale à la santé, affirme docteur Bangabe. Il est lui aussi joint par Babel Pongo Massimango.
Nous étions devant une malade qu'on nous a mené dans un état très critique. Aux urgences, la malade a bénéficié les soins nécessaires. Après, cette malade a été orientée vers les soins intensifs. Et comme dans tous les hôpitaux, si vous voulez aller à la salle d'opération, hospitalisation, aux soins intensifs, voilà ce que vous devez payer. On donne une caution. Alors, il revient à la famille de voir est-ce que ce qu'on nous a demandé, nous allons payer. Est-ce que nous pouvons payer la totalité? Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce qu'on peut faire un document pour payer après? Il n'y a pas eu collaboration dans ce sens-là avec la personne qui avait accompagné la malade. Les soins ont été donnés. Quand on leur a communiqué ce qu'ils devaient payer, ils n'ont même pas dit qu'il fallait peut-être signer pour venir payer le jour qui suivait. Ils ont préféré aller dans une autre structure. Notre médecin aux urgences a estimé nécessaire qu'il continue la prise en charge chez nous. Mais la personne a refusé et a même proposé de louer notre ambulance parce qu'il devait partir. Elle est partie contre avis médical.
Face à cette grave situation impliquant la mort d'une femme, nous avons approché le président de l'Ordre de médecins de la RDC qui explique le fonctionnement d'un service d'urgence et il indique qu'il doit apporter des soins immédiats aux malades. Docteur Berthier Nsadi note enfin que ces cas malheureux doivent interpeller tout médecin et infirmier. Il est lui aussi interrogé par Naomi Mutoke et Babel Mpongo.
C'est des situations de maladie qui exigent une prise en charge immédiate. S'il n'y a pas une prise en charge immédiate, la situation peut évoluer de manière péjorative. Maintenant, un hôpital doit avoir une attention particulière à ces services-là. Parce que c'est d'abord un service qui est en contact avec l'extérieur, directement. Et deuxièmement, c'est un service parce que il faut apporter des soins immédiats et de qualité, proportionnelle à la gravité de la situation.
Madame Divine est décédée parce qu'elle n'avait pas de caution. Est-ce que c'est seulement pour le riche?
C'est-à-dire qu'un malade qui vient aux urgences doit accéder aux soins directement. On ne doit pas lui donner des conditions préalables de ceci et cela, normalement. Le cas qui s'est passé, très malheureux, et ça, nous, les personnels de santé, personnels de soins, nous les médecins, lorsqu'il y a pareille situation, nous sommes plus que interpellé.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu. Plusieurs localités du territoire d'Ikobo dans le territoire de Walikale sont privées d'eau potable depuis environ un mois. En cause, une répétition des pannes sur les réseaux d'adduction. Au plus fort des combats entre les rebelles du M23 et les groupes locaux d'autodéfense dans la région, le point de captage situé sur le mont Moulema avait subi d'importants dommages. Depuis lors, l'organisation locale, le COGEP, tente de réparation sans succès. La société civile Noyau de Boulé Oussa alerte sur la situation et en appelle à une urgente intervention des autorités et des partenaires. On écoute Grâce Bourouteré, leader communautaire et membre de la société civile de Boulé Oussa.
Vraiment, besoin très urgent.
Le besoin le plus urgent, c'est celui de l'eau potable. Dans le groupement, il y a plus ou moins 14 000 habitants qui sont affectés par cette pénurie, notamment à Boulé Oussa, Katrissa, Kilambo, Bukumbiroa, Osamambo, Bushimba. Vraiment, l'eau, c'est une grande difficulté. La population en est privée. Il serait d'un grand apport que les différents partenaires et les autorités appuient l'initiative locale de l'organisation COGEP en lui dotant d'une machine de fusion susceptible de permettre des interventions en cas de panne. Et toutefois, pendant ce temps, la population endure d'énormes souffrances.
Au Kasaï oriental, 24 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu hier soir à Mwanzalomba, dans le territoire de Lupatapata, à une vingtaine de kilomètres de Mbujimai, sur la nationale numéro 1, axe Kabeakamwanga. Selon des témoins, un camion en provenance de Mbujimai pour Kinshasa, transportant des passagers et des marchandises, s'est renversé dans un virage au bord d'un ravin. Les blessés sont acheminés par vagues vers Mbujimai, tandis que les travaux de modernisation de cette route se poursuivent depuis quelques mois. Un autre drame routier est survenu hier mercredi en Ituri, où 3 personnes ont trouvé la mort et plus de 20 autres grièvement blessés au village Ngaba 2 dans les territoires de Djougou. Selon des sources coutumières, un véhicule de transport en commun qui roulait à vive allure s'est renversé sur la chaussée. Des activistes de droits humains dans la région plaident pour l'évacuation des blessés dans des structures médicales appropriées pour leur prise en charge. Martial Kizabiamongo nous en parle.
D'après des sources locales, c'est vers 8h que les camions transportant des passagers a quitté Bandroma pour le marché hebdomadaire de Linka. Arrivé au village de Ngabadé, l'engin qui roulait à vive allure s'est renversé. Sur place, 3 personnes sont mortes, dont une femme enceinte, indique les mêmes sources. 27 autres passagers grièvement blessés ont été acheminés à l'hôpital de Réti, toujours dans la même région. Des activistes locaux des droits humains plaident auprès du gouvernement et de la MONUSCO pour l'évacuation à Bouni. Bunia des cas graves parmi les blessés pour une bonne prise en charge et éviter d'autres décès. Benjamin Kabou, l'un d'eux.
Aux autorités, espèrent que ces blessés soient évacués au niveau de Bunia, tel qu'ils avaient fait même pour les autres Afriques de blessés de l'année passée, pour être pris en charge par MSF. Parce qu'à Réti, il n'y a pas de stock de médicaments. Qu'on puisse les évacuer au niveau de Bunia pour les soins. Sinon, le bilan sera ajouté.
Des sources médicales à Pandroma affirment que l'hôpital de Réti, déjà en difficulté d'approvisionnement en médicaments, est saturé depuis mercredi par de nombreux croissants de blessés et d'autres malades qui y affluent. Bunia, Martial Kizabiabongo, Radio Okapi.
Au Maniema, l'ONG de droits de l'homme Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité alerte sur les mauvaises conditions de détention des détenus de la prison centrale de Kalima. Selon le responsable de cette organisation qui s'est rendue sur place, les détenus manquent de nourriture et la prise en charge médicale est inexistante, tout en dénonçant ces violations de droits de l'homme à répétition. Ramazani Elimassi Samuel appelle à l'implication urgente des autorités compétentes et même des partenaires pour réhabiliter et équiper la dite prison afin d'améliorer les conditions des détentions. On l'écoute, il a été joint par Florence Kizalunga.
Les conditions de vie des détenus dans la prison centrale de Kalima sont très mauvaises, constituant une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la santé et même pour la vie des détenus. Les inculpés sont soumis aux mêmes conditions que les condamnés. Il y a 6 latrines en très mauvais état, 2 barzas impropres, un bureau pour le directeur de la prison sans porte ni fenêtre, une cuisine et un dépôt sans fonction. La source d'eau potable inexistante. Pour trouver une eau impropre, il faut faire 2 kilomètres. Les bureaux administratifs non équipés en mobilier, les détenus dorment à même le sol et classés en 2 cellules. Les services médicaux inexistants, la prise en charge des prisonniers serait inexistante. Cette prison ne renferme aucune condition pouvant abriter les détenus. Plusieurs détenus restent plusieurs jours sans comparaître suite au dysfonctionnement du tribunal de paix et du tribunal de grande instance à Kalima. Des agents de services pénitentiaires ne sont pas payés. C'est pourquoi il y avait eu 3 évasions à répétition ces derniers temps dans cette prison.
L'Union des jeunes congolais pour le changement UJCC appelle la jeunesse congolaise dans l'ensemble à la prise de conscience, au patriotisme et à la responsabilité. Dans un message audio publié ce jeudi à Kinshasa et parvenu à Radio Okapi, le vice-président de l'UJCC condamne les dernières attaques de vandalisme au stade de Martyrs de Kinshasa et des récents actes d'incivisme et de pillage dans la commune de Ngaliema. Le prophète Rémi Flamme Mangwamba interpelle les partis politiques, la société civile et les églises à se préoccuper en priorité de la sensibilisation de la jeunesse à l'éducation citoyenne et surtout au respect des biens publics et privés. Il est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Le premier message, c'est le patriotisme. Notre pays est entouré plus aux ennemis que d'amis. La jeunesse fait partie de la solution. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le travail des Ouazalendo qui sont des jeunes. Donc, les jeunes actuels doivent se rendre compte qu'il est un espoir de ces pays. Il est l'incarnation du changement. De plus qu'il ne prend pas conscience à aimer les pays. Je reviens encore par rapport à l'acte qui vient de se passer au stade. C'est pas aimer les pays. Donc, soyons conscients et prenez nos responsabilités.
Les jeunes se sont mal comportés. Mm-hmm. Quel est le message que vous leur faites pour éviter ce genre de comportement?
Et ces actes-là, nous les condamnons. Mais maintenant, prochainement, il faut monter des stratégies comment empêcher toutes ces choses qui arrivent. Mais aux jeunes, c'est manque de patriotisme. Que ce soit nous, les organisations de la société civile, que ce soit les partis politiques, de tels actes doivent nous interpeller pour dire que nous avons un grand travail à faire. Comment repenser encore la jeunesse? Il faut vraiment une meilleure éducation citoyenne. Ça doit entrer dans des partis politiques, dans des églises, dans des familles, partout. Parce que le mal est trop profond. Et puis, c'est tout un processus.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle, l'ancien président du pays, Laurent Gbagbo, a reçu hier mercredi plusieurs autres opposants, parmi eux Pascal Affi Nguessan du Front populaire ivoirien. Au moins 280 décès de plus que la normale, soit un excès d'environ 5%, ont été constatés en France lors de la canicule du 8 au 19 août. La deuxième de l'été 2025 a annoncé ce jeudi l'Agence Santé publique France. Cette mortalité en excès n'est observée que chez les personnes âgées de 75 ans et plus, précise l'agence sanitaire, rappelant qu'il est encore trop tôt pour établir un rapport direct de cause à effet entre ces morts et les fortes chaleurs, écrit l'agence France Presse.
L'invité.
Les embouteillages paralysent la circulation et compliquent la vie des Quinois. Cette saturation routière engendre des retards, des frustrations et une baisse des productivités, notamment pour les élèves, étudiants et travailleurs. Nous assistons à une congestion chronique des circulations routières. Pour résoudre ces problèmes, le commandant Serge Ilunga Lukunga, pilote des lignes et expert en transport en commun, propose la décentralisation de la ville de Kinshasa. Cette décentralisation passe par 4 possibilités. Construire des routes, le train urbain, le transport par le fleuve et le taxi volant. Commandant Serge Ilunga Lukunga s'entretient avec Stanislas Diumi.
Commandant Serge Ilunga Lukunga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pilote de ligne et expert en transport en commun. Et comme vous le savez, les embouteillages paralysent la ville-province de Kinshasa. À la base, une congestion chronique de circulation routière. Commandant Serge Ilunga, c'est quoi une congestion chronique de circulation routière?
C'est qu'il faut comprendre que quand on parle de la congestion chronique de circulation routière, c'est quand le volume des véhicules dépasse la capacité du réseau routier. C'est en ce moment-là qu'on parle de congestion chronique de circulation routière. Et ça, c'est le problème que nous avons à Kinshasa aujourd'hui. C'est en train de contaminer déjà certaines villes comme Lubumbashi et un peu Goma et Bukavu. Pour moi, c'est une urgence.
Comme c'est une urgence et surtout que vous êtes expert en la matière, quelles sont les pistes et les solutions que vous pouvez proposer pour résoudre ces fléaux?
D'abord, j'aimerais vous donner quelques faits qui sont très alarmants. La ville de Kinshasa, c'est aujourd'hui entre 15 et 17 millions d'habitants et nous sommes autour de 2 ou 3% des personnes qui sont au-delà de 70 ans. Dans 10 ans, la ville de Kinshasa, ça sera 5% des personnes qui vont avoir au-delà de 70 ans. Ce qui représente, avec les projections, Kinshasa dans 10 ans, c'est entre 20 et 25 millions d'habitants. Et si vous prenez 5%, nous parlons d'un million des personnes. Donc Kinshasa, dans 10 ans, ça sera 1 million de personnes de plus de 70 ans à Kinshasa. Ils vont se déplacer comment? Ils vont bouger comment? Ils vont aller à l'hôpital comment? Ils vont vivre comment finalement? Donc vous voyez que le problème de circulation à Kinshasa, c'est une urgence et ça demande une attention particulière maintenant. Vous avez déjà vu comment est-ce que nos enfants vont à l'école aujourd'hui? Vous verrez 4 enfants, 3 enfants sur une moto avec leur maman. Donc, tout ceci nous appelle à nous asseoir et réfléchir de manière urgente sur le problème de mobilité dans la ville de Kinshasa.
Effectivement, les données statistiques que vous venez de nous offrir sont tellement alarmantes. Alors, en tant qu'expert en matière, qu'est-ce qu'il faut en termes de projection pour résoudre ces problèmes? Parce qu'il est déjà alarmant.
Il faut commencer à penser à décentraliser la ville.
Comment?
Tout est à la Gombe. Le président de la République est à la Gombe. Le premier ministre est à la Gombe. Tous les membres du gouvernement sont à la Gombe. La majorité d'entre eux, non seulement ils ont leur bureau à la Gombe, et aussi ils habitent à la Gombe. Et vous avez tous les DG, tous les PCA, tous les DGA. Et la majorité d'entre eux ont leur bureau à la Gombe et habitent aussi là-bas. Il faut décentraliser. Vous voyez, quand vous êtes à la frontière de Maloukoué, le Bandou, c'est là-bas qu'il faut construire la présidence de la République. Il faut construire la primature là-bas. Il faut construire le parlement là-bas. Et petit à petit, ça va s'urbaniser. Kinshasa est une mégapole qui souffre de cette croissance qui est arrivée sans être planifiée. Une croissance qu'on n'a pas anticipée. Une croissance qu'on n'a pas contrôlée. Elle est arrivée comme ça. Et tout le monde a observé cela venir sans qu'il y ait nécessairement une planification ou une anticipation. Par là, je profite pour glisser que nous serons justement dans une conférence pour réfléchir sur la question à Sultani le 25, le 26 et le 27 septembre de cette année. Décentraliser, présidence de la République, primature, stade, gouvernement, certaines entreprises publiques, on les déplace vers là-bas. Mais maintenant, si nous allons déplacer la ville vers le fond de Maloukou, là-bas, front.
C'est qu'il faut aussi voir les conditions routières.
C'est ça. C'est la condition dont je vais parler. Et moi, je pense qu'il faut 4 possibilités pour quitter de là et venir ici, ou quitter ici et aller là-bas. Si on construit seulement, sans prévoir les quatre moyens qui vont connecter la nouvelle ville et ici, ça va pas marcher. Donc il faut la route, il faut le train, il faut le transport aussi par le fleuve. Maintenant, il faut aussi penser à ce que nous appelons au Congo taxi aérien, ou qu'on appelle véhicule volant, taxi volant. Il faut penser à ça aussi. Et c'est ça qui va faire que les 20 millions d'habitants de la ville de Kinshasa, quand on va construire de l'autre côté, que ceux qui sont là-bas ne soient pas coupés de l'ancienne ville de Kinshasa. Parce que s'ils sont coupés, là-bas, ça ne va pas croître.
S'il faudrait commander des taxis volants, comment cela peut se passer sur le plan pratique?
Ce n'est même pas un moyen de transport qui est très très cher, mais ça pourrait aider à diminuer le nombre de véhicules entre l'aéroport et le centre-ville, par exemple. Pour que ce pays décolle, il faudrait que nous tous, y compris le gouvernement, les leaders d'opinion, les conférenciers comme nous autres, que nous mettions un accent particulier pour que ce pays décolle.
Commandant Serge Ilunga Lukunga, je rappelle que vous êtes pilote de ligne, expert en transport en commun et conférencier. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Polly Mouzalia à Lengoy. La mise en onde, vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiokapi.net.